Je vais essayer de vous occuper, ne serait-ce que 5 minutes, avant que le premier conférencier n'arrive. Je tiens vraiment à vous remercier d'être tous là ce matin, puisque vous êtes aux environs de 114, moins deux peut-être. Mais n'empêche que quand même, donc on a eu en moins d'une semaine à avoir plus de 100 inscrits, et 100 inscrits, pardon. Alors c'est une très bonne chose parce que les nanotechnologies, les nanomatériaux intéressent plus d'un, puisque on trouve ici des gens qui ne sont pas du tout du domaine, et tant mieux. Et je dirais donc, qu'est-ce que c'est qu'un nanomatériau? Je ne sais pas, et j'en saurai un peu plus tout à l'heure. Pourquoi je dis ça? Parce que, ben, effectivement, ceux qui sont par exemple de Xlim, qui ne travaillent pas chaque matin sur les nanomatériaux, il y a certains qui sont donc des sciences humaines. C'est encore une très bonne chose puisque une personne qui est du côté du droit vous donnera son impression tout à l'heure sur tout ce qui est scientifique, science, je dirais donc science exacte. Alors pourquoi je le dis? Parce que effectivement, c'est la fête donc 3 fois. Donc c'est la 3e année que nous organisons ce type de conférence. Puisqu'il n'y a pas eu le débat tant souhaité au niveau de la France, il y a eu des activistes qui ont fait en sorte que le débat national a échoué plus d'un et plus d'une fois. Donc contrairement en Allemagne, contrairement à la Suède, contrairement à l'Angleterre, les nanomatériaux ont été débattus au niveau national pour savoir ce qu'il faut en faire. Mais malheureusement, donc, tout le monde ne nous a pas entendus. Aujourd'hui, il est question de nanomatériaux un peu partout, dans la cuisine, dans nos habits, un peu partout. Et donc, c'est de façon sauvage qu'on va en trouver. Alors, c'est pour cette raison, je voudrais que la journée soit de façon consensuelle, mais en même temps aussi de poser des questions pour en savoir un peu plus. Puisque c'est tout simplement pour l'épanouissement culturel et scientifique que nous organisons ce type de formation thématique au niveau des écoles doctorales. Et je suis très heureux que ça soit au-delà de Gay-Lussac, puisqu'on voit d'autres écoles doctorales venir s'inscrire. Alors, je parle un peu dans le vide parce que effectivement, donc, l'organisation a été faite d'une façon, je dirais, donc, pas naturelle. Parce que j'ai été obligé moi-même de l'organiser, en ce sens que donc, ma secrétaire est donc souffrante. Donc vous comprendrez que c'est dans des conditions très très spéciales que nous organisons ici. Je demande votre indulgence d'être le plus discipliné possible et surtout de faire en sorte que ceux qui sont venus de l'extérieur puissent rentrer dans leur rang de telle sorte qu'on ne puisse perdre personne pour aller déjeuner ce midi. En ce sens qu'à 12h30, je n'ai pas voulu que vous mangiez à Roche d'Argent. La dernière fois que j'y ai mangé, je n'ai pas pu prendre mon dessert. Donc on vous ramène sur le campus à Rabelais. Donc, ceux qui sont de Poitiers, vous ne savez pas, vous allez manger, ce n'est pas la peine d'aller à Rabelais parce que vous n'aurez pas de ticket de Rabelais. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous distribuer un bon. Et ce sera donc, excusez-moi donc du nom, ce n'est pas moi qui l'ai donné, c'est donc à l'espace Gargantua, donc au-dessus. Et il faudra rentrer en suivant la personne qui viendra donc vous indiquer la route. Madame Plus Blanchet, qui viendra vers midi. Et qui vous accompagnera, puisque je resterai ici pour déjeuner avec les intervenants extérieurs. D'accord? Donc, ceux qui vont sortir pour aller fumer, pour aller faire quelque chose, il faudrait à 12h30 que vous soyez prêts à monter dans le bus spécial qui viendra vous chercher à l'extérieur et vous emmener à Rabelais, donc ça se situe pour les extérieurs sur le campus universitaire sud. Et après, on vous ramènera ici pour 14h30. De façon très précise, ne vous égarez pas de ce programme. Est-ce que j'ai tout dit? Alors, comment valider? Effectivement, donc j'ai eu quelques questions de l'extérieur aussi. Il y a 2 ou 3 qui partiront avant 18h, avant 17h bien sûr, donc avant la fin. Alors, on essaiera donc de, à titre exceptionnel pour eux, parce qu'ils ont une contrainte de ma thèse en 180 secondes, de faire en sorte qu'ils puissent regagner l'organisation à Limoges, par exemple. Et ce qui fait que ben, ceux qui seront là, vous allez avoir une feuille, donc estampillée La Rochelle, Limoges et Poitiers, pour émarger, de telle sorte que vous puissiez valider votre formation thématique en retour à votre école doctorale. Je crois que j'ai tout dit. Alors, bien sûr, donc c'est fait de telle sorte que je demanderai à chaque intervenant aussi, s'il n'y a pas de confidentialité, de laisser, comme on le fait d'habitude, de laisser son PowerPoint. Donc, ce n'est pas à peine d'écouter, débattre, soyez à l'aise. Il y aura chaque fois à peu près 10 à 15 minutes pour poser des questions, pour essayer de débattre. On n'a pas toujours le même point de vue. Moi, je voudrais qu'un nanomatériau soit de 10 nanomètres. Bon, il y a d'autres qui diront que c'est donc à peu près 100 nanomètres. Donc, qu'est-ce que ça peut donner? Je donnerai un exemple tout simplement. À l'issue de l'organisation de la dernière fois, j'ai rencontré un directeur d'école doctorale d'Israël qui disait, tiens, c'est une très bonne chose que vous organisez donc les nanotechnologies, etc. Et on a pris l'exemple de l'argent. Est-ce qu'un intervenant en parlera? Je verrai bien. Donc, pourquoi l'argent? Parce que l'argent est un antibactérien qu'on peut trouver un peu partout. Et actuellement, il est question de faire des chaussettes en nanomatériaux d'argent. Alors, ça pose un problème pour certains et c'est un avantage pour d'autres. Je prendrai le cas que pour quelqu'un qui fait 50 km, qui peut avoir, par exemple, des problèmes de sanitaires. Si vous êtes, par exemple, diabétique, etc., un militaire peut se blesser et doit faire 50 km à pied. Il se blesse, donc il peut avoir une gangrène. Et dans ce cas-là, donc, on sera bien obligé de l'amputer. Et ce collègue israélien disait qu'effectivement, pour un militaire israélien qui doit faire 50 km, c'est une très bonne chose, puisque s'il se blesse, l'antibactérien fait son boulot et il n'aura pas de gangrène ni d'amputation. Or, pour nous ici, si vous avez une chaussette en nanomatériaux en argent, par exemple, et que vous laviez deux ou trois fois, vous perdez quelques nanomatériaux, ça se trouve dans la station d'épuration. Et comme c'est un antibactérien, ça empêche les bactéries de faire leur boulot d'épuration. Donc c'est un problème pour certains, c'est un avantage pour d'autres. Voilà à peu près, par exemple, ce qui peut nous situer dans un débat tout à l'heure. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne vous demanderai pas donc, si vous avez des questions, parce que vous n'en avez pas. Et nous allons commencer dans quelques minutes. Je demanderai donc... ils sont tous là. Ils sont là, donc tant mieux. Alors, je profite de l'occasion pour remercier Madame Anne Bonnefoy de l'Espace Médecins France qui nous a vraiment aidé à organiser cette journée. L'Espace Médecins France, donc Monsieur Didier Moreau, qui est le directeur, devait être là ce matin, mais je ne l'ai pas vu. Et effectivement, donc, c'est dans cette collaboration Espace Médecins France et l'Université de Poitiers dans son ensemble, puisque je suis en même temps directeur du collège doctoral, et qui voit à peu près donc, tous les secteurs doctoraux de l'Université de Poitiers avoir des conventions avec l'Espace Médecins France. Et donc aussi, je profite de l'occasion, puisqu'on a presque tous les... Enfin, certains conférenciers qui sont déjà là, pour leur dire vraiment donc, et tout notre amitié et toute notre gratitude pour certains donc, qui sont venus deux ou trois fois déjà et qui sont donc fidèles à notre école doctorale. Voilà.
Merci. Bon, merci Boniface. Donc, on va se remercier en effet. Donc, je remercie l'école doctorale d'être toujours partant pour organiser ces journées d'études sur les nanotechnologies. Et les conférenciers aussi ici présents qui sont déjà intervenus et qui reviennent. C'est toujours un plaisir de les accueillir. C'est une démarche qui n'est pas évidente parce que les nanotechnologies, on a organisé 5 journées d'études ici sur les nanotechnologies à l'espace Mendès France quand il y avait eu justement demandé par l'Académie des sciences une synthèse. Nous, on ne faisait pas partie des gens qui avaient été sélectionnés, mais on a fait partie des gens où personne n'a cassé les chaises, parce que, comme vous le savez, à Grenoble, quand il s'est agi d'organiser une journée sur les nanotechnologies, il y a une association qui s'appelle Pièces et Main d'œuvre, on vous en parlera à nouveau, qui a tout cassé, et en fait, il n'y a pas eu de débat. Donc ici, le débat a pu avoir lieu. Donc on a eu des journées un peu très sciences dures. Mais ce qu'on voulait faire aujourd'hui avec l'école doctorale, et c'est aussi la mission de notre centre de culture scientifique, c'est de donner une information culturelle et scientifique qui soit assez large pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les nanotechnologies. Donc on a fait appel à un historien, à un juriste, Monsieur Pirot qui travaille au laboratoire de pharmacie galénique industrielle à Lyon, et puis aussi Stéphanie Lacour, bon, qui est juriste, et puis Alexis Greenbaum qui est un chercheur CEA à Saclay. Donc vous avez une vue d'ensemble des nanotechnologies. Donc ce qui nous intéresse aussi lors de ces journées, c'est ce qu'a dit Boniface, c'est qu'il y a du débat. Donc ce sont pas sur des conférences, bien sûr, c'est pas ex cathedra comme à l'université dans un amphi où vous levez pas la main. Là, c'est l'occasion ou jamais de poser des questions. Et il est vrai que quand on a parlé des nanotechnologies, on n'a pas eu énormément de débats ni dans les journaux ni ailleurs, parce que c'est un sujet qui est très complexe et qui fait appel aussi à toutes les disciplines, ce qui est l'intérêt aussi des nanotechnologies, et qui fait appel à une recherche fondamentale et surtout enfin, à une recherche appliquée. Puisque il y a sans doute des nanotechnologies chez vous ou sur vous sans que vous le sachiez. Donc, ça serait peut-être intéressant que vous soyez au courant quand même de ce que ça signifie. Donc, je vous remercie tous encore. Il manque Madame Lacour, mais comme elle habite Poitiers, elle ne va pas tarder. Donc, Monsieur Dorido, Fernand, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Donc, tu es professeur à l'IRCAM à Lille. Et puis, on a toujours, puisque je m'occupe du pôle d'histoire des sciences et à l'espace Mendès France, on a toujours envie de commencer une journée par une approche aussi, comme je vous disais, assez large. Donc là, il s'agit de l'histoire des nanos et particulièrement, qu'est-ce que ça veut dire les nanotechnologies en société. Donc, bonne journée à vous. Si vous avez soif, on apportera des bouteilles d'eau. Et puis, vous aurez une pause, etc. Bon, en général, ça se passe très bien. Les gens sont contents. Donc, bonne journée. Merci à tous.
Bon, eh bien, ça marche. Écoutez, donc, bonjour à tous. Alors, effectivement, donc je remercie moi également, bien sûr, Anne Bonnefoy, Monsieur Gocou, de m'avoir invité. Ça fait effectivement quelques années, en fait, que je viens ici donner une conférence à Poitiers. C'est toujours un plaisir, et il est vrai que je suis fidèle au point de ne pas m'être beaucoup renouvelé. Finalement, je réalise durant toutes ces années. Donc, désolé pour ceux qui m'auraient déjà entendu. En fait, vous allez voir que mon propos n'a pas énormément changé depuis que je viens. Alors, ce que je propose en fait en introduction de cette journée, c'est de brosser une sorte de panorama de la façon dont la question des nanotechnologies s'inscrit dans la société et s'est inscrit depuis quelques années. Alors, d'abord, il faut préciser effectivement d'où on parle. Hein, c'est toujours important sur ces sujets-là. Donc moi, effectivement, je ne suis pas chercheur en nanotechnologie. Je ne développe pas des nanos moi-même. Je ne suis pas non plus expert toxicologue ou spécialiste non plus de réglementation. Je suis historien et philosophe des sciences. Hein, et je travaille dans un centre d'éthique abrité par une école d'ingénieurs. Je m'intéresse depuis quelques années à la question des nanotechnologies. Je suis en lien avec des instances comme l'ANSES. Mais voilà, mon propos est celui d'un historien, d'un philosophe et d'un éthicien. Alors, ce que je propose en introduction, donc, c'est de rappeler comment la question des nanotechnologies s'est ancrée en fait, dans un certain nombre de projets de société. Hein. Donc, je vais faire un petit détour par l'histoire. Détour qui n'est pas gratuit, parce qu'il me paraît important pour comprendre la difficulté à débattre des nanotechnologies. Hein. La façon dont elles ont été associées à certains projets de société explique en grande part les difficultés d'en débattre aujourd'hui sereinement. Ça va m'occuper un petit... J'ai trois quarts d'heure, en fait, hein, c'est ça le... D'accord, alors peut-être un petit quart d'heure, je vais faire ça. Ensuite, je voudrais brosser un certain nombre des questions générales posées posée aujourd'hui par le développement des nanotechnologies. Une fois que ce détour historique aura été fait, regardez un petit peu champ d'application par champ d'application, quelles sont les questions qui se posent et pourquoi la question des nanos demeure donc à ce point controversée. Et puis, alors, c'est vrai que j'avais 5 grandes parties, mais ça va être assez dur à tenir. Dans un troisième quart d'heure, en très très gros, je donnerai des éléments de contexte concernant le développement des nanos et notamment ce qui en est, pour le coup, des débats publics, de la façon dont on essaie d'organiser des processus de discussion, de concertation autour des questions nano et des questions les plus importantes qui se posent à ce sujet. Et en conclusion, je vous parlerai peut-être d'un projet qu'on a actuellement en région Nord-Pas-de-Calais, un projet de type chercheur citoyen au sujet de la question des nanotechnologies. Alors, d'abord donc un peu d'histoire. Il est vrai que les nanotechnologies, bien qu'initialement donc domaine d'innovation scientifique, ont été vite associées à un certain nombre de ce qu'on appelait des grandes visions, hein, c'est-à-dire des projets de société qui se sont appuyés sur ces nanotechnologies. Alors, ce n'est pas propre à la question des nanos, hein, c'est-à-dire j'ai coutume de dire qu'on retrouve ça à différentes étapes de l'histoire, hein, notre XVIIe siècle, par exemple, qui est un siècle de grande révolution scientifique, c'est lui aussi accompagné d'un certain nombre de discours très optimistes sur ce que les sciences et les techniques allaient apporter à l'humanité. Mais il est vrai que dans le cas des nanotechnologies, ces projets de société sont apparus finalement assez vite par rapport au développement purement technologique et ont vraiment façonné la façon dont les nanos se sont installés dans la société. Hein. Alors, voilà, je ne pense pas que ces visions, une fois encore, aient radicalement impacté le développement propre des nanotechnologies, mais en tout cas, elles ont également façonné le débat sur ces nanos. Donc voilà pourquoi je voudrais m'y attarder un petit peu. Alors, je le ferai en quelques étapes. D'abord, j'évoquerai la façon dont un certain nombre de penseurs américains, notamment, ont imaginé le futur que permettrait le développement de ces nanotechnologies. J'évoquerai cette fameuse notion de convergence entre différents champs scientifiques telle qu'elle a été évoquée par une instance américaine qu'on appelle la NNI, National Nanotechnology Initiative. Et puis, je mentionnerai la façon dont les Européens ont essayé de se démarquer de ces visions américaines et ce qu'ils ont voulu promouvoir, eux, de leur côté, comme vision plus humaniste, en quelque sorte. Alors, quelques repères, d'abord sur le plan scientifique. Mon propos va être de montrer que les grandes visions dont je vous parlais, elles sont apparues assez tôt, finalement, dans le développement scientifique proprement dit. Alors, si on parle de nanotechnologie, on peut faire différentes chronologies, on peut leur trouver des origines diverses. On retient souvent 1981, c'est l'invention du microscope à effet tunnel, donc ce fameux instrument qui permet de voir en quelque sorte à l'échelle atomique, hein, par une analyse du signal qui apparaît entre la pointe du microscope et la surface atomique sur laquelle on le promène, qui fait usage d'effets quantiques en fait. Hein. Et c'est un instrument un peu magique parce qu'il permet non seulement de voir ce qui se passe, de reconstituer les surfaces à l'échelle atomique, mais également d'agir sur ces surfaces en poussant, grâce à la pointe du microscope par exemple, des atomes. Hein. Donc c'est l'instrument qui a donné accès en quelque sorte à ce nanomonde. En 1989, on découvre des fullerènes, c'est des molécules très particulières formées de 60 atomes de carbone, à peu près sphériques, hein, et qui ont une topologie très particulière, dont on a trouvé de nombreuses applications, notamment en médecine, et puis dont la découverte est assez intéressante parce qu'on les avait déjà repérées dans l'espace, on en avait déduit leur présence sans doute avant de les découvrir et d'arriver d'ailleurs à les synthétiser sur Terre. En 1990, c'est des prouesses technologiques qui sont réalisées. Et par exemple, la firme IBM écrit son propre sigle avec 25 atomes de xénon. Donc c'est la possibilité rendue manifeste d'écrire à l'échelle atomique avec tout ce que ça laisse augurer de possibilités de stockage d'informations énormes, hein, avec une très très peu de place. En 1991, la découverte des nanotubes de carbone qui vont devenir un des produits phares des nanotechnologies. Donc des alignements d'atomes de carbone qui sont 100 fois plus solide que l'acier et 6 fois plus léger, hein, donc des et en plus qui ont tout un tas de propriétés très très intéressantes sur le plan électrique, thermique, etc., dont on a vite trouvé un certain nombre d'applications. Vous avez sans, peut-être entendu parler qu'une des applications les plus délirantes peut-être était la possibilité de faire un ascenseur pour l'espace, hein, qui permettrait de mettre en orbite des choses assez facilement, finalement, qui serait assez solide pour tenir par lui-même du fait de cette structure. 1996, c'est le début vraiment de l'électronique faisant usage des nanotechnologies, avec le premier transistor formé d'une seule molécule de nanotubes de carbone. Bon, voilà. Après, alors bon, évidemment, l'histoire continue, hein, puisque les découvertes, vous savez que depuis cette date, il y en a tous les jours, et de façon exponentielle. Alors, si je raisonne un petit peu en historien, en tout cas, donc je m'arrête là. Les visions sociales dont je vous parlais, elles commencent assez tôt, puisque justement, hein, on parle de 1981, c'est en 1986 que cet ingénieur américain, Eric Drexler, écrit un livre qui s'appelle « Engin de création, l'ère à venir des nanotechnologies ». Hein ? Alors, dans ce livre, il essaie d'imaginer justement le futur qui va être rendu possible par l'émergence de ces machines. Alors, il pense que grâce à ces nanotechnologies, on arrivera en fait à imaginer des machines moléculaires qui feront la synthèse directe des molécules répondant aux besoins humains à partir justement de l'échelle atomique. Hein. Donc plutôt que de, pour résumer grandement, plutôt que de élever une vache, la tuer, et toute la chaîne qui peut mener un bon steak de viande, pourquoi ne pas directement le synthétiser à partir des atomes adéquats, hein. Voilà, donc espoir évidemment de sauvegarde de ressources, du coup de préservation de l'environnement, et un futur donc très optimiste qui nous est brossé dans ce livre. Un futur qui est également présenté comme inévitable, hein, donc Drexler s'inscrit dans une forme de déterminisme technologique. Il pense que toute l'histoire biologique et humaine a préparé cet avènement des nanotechnologies, mais un futur qui, paradoxalement, peut également permettre, d'après lui, d'échapper à la technologie. C'est-à-dire il dresse un panorama un petit peu surprenant d'une communauté qui reviendrait à la vie en petits groupes, en quelque sorte, hein, plutôt que, vous savez, que c'est le développement industriel qui a donné lieu à nos grandes agglomérations, c'est la nécessité de la concentration industrielle, notamment. Il pense qu'on va se libérer de cette contrainte et on va revenir à une forme de vie plus harmonieuse, plus proche de la nature, peut-être en cadre familial, enfin en petits groupes amicaux, grâce à ces technologies spectaculaires et miraculeuses. Un futur qui n'est pas exempt de risques non plus, hein, nous dit Eric Drexler. Il est le premier à populariser ce risque qui va devenir un peu célèbre, de grey goo, c'est-à-dire de gelée grise, qui serait produit par cette sorte de petits organismes qui se répliqueraient eux-mêmes, hein, et qui finiraient se répliquant eux-mêmes à l'échelle moléculaire par absorber tout le carbone de l'atmosphère. Hein. Donc voilà, son propos est de dire on va aller de toute façon dans ces directions-là. Il faut préparer ce futur. Hein, on n'y échappera pas, mais charge à nous de le préparer, de l'anticiper le plus possible. Alors, ces visions vont être reprises avec certaines nuances par cette grande instance, donc la National Nanotechnology Initiative, au début donc des années 2000. Alors, ce qui va se passer en quelques mots, ce qu'on dit parfois, c'est que les Américains prennent conscience du développement mondial de ces technologies et notamment de la grande avancée de l'Asie, hein, puisque la Corée, le Japon étaient déjà en pointe sur ces domaines. Et peut-être les Américains se sont-ils dit dans ces années que pour la première fois au XXe siècle, depuis très longtemps, une innovation majeure était susceptible de leur échapper, hein, de se faire dans une autre partie du monde qu'eux. Alors, ils ont du coup essayé de trouver le moyen de persuader leur politique de doter les programmes nanotechnologiques d'énormément de moyens. Hein, et c'est pour ça qu'ils ont émis des rapports qui visaient à persuader notamment les politiques de tous les bienfaits qu'on pouvait attendre de ces nanotechnologies. Hein, donc ils ont un rôle, politique, un rôle de fédération, ces rapports. Alors parmi eux, donc, un rapport célèbre va être émis qui s'appelle donc Technologie convergente pour l'amélioration des performances humaines. Hein, et alors, c'est un rapport qui sort en 2002. qui sera suivi par un autre qui s'appelle la coévolution du potentiel humain et des technologies convergentes. Alors que sont ces technologies convergentes qui sont promues dans ces rapports? Alors vous avez sans doute entendu parler de cette fameuse convergence NBIC. Il s'agit donc de la convergence entre les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l'information et les technologies de la cognition. En quelque sorte. Hein. Alors, c'est une convergence qui est surtout heuristique, en quelque sorte, parce que ce que remarquent les rédacteurs de ces rapports, c'est que on va procéder dans ces quatre domaines de la même façon, en décomposant en gros les choses complexes en des choses très simples. Hein. C'est une forme de réductionnisme à l'échelle moléculaire. C'est-à-dire que de même qu'on est capable de comprendre un certain nombre de fonctionnement de... je vais partir de la biologie. Il y a par exemple l'ambition en biologie de comprendre le fonctionnement de l'organisme à partir de la connaissance fine du fonctionnement des cellules, hein, des protéines, des bases, etc. Donc on est sur un paradigme réductionniste, on réduit le complexe au simple. Hein. Alors, ils observent qu'il va en être de la même façon dans les technologies de l'information, c'est-à-dire qu'on va être amené de plus en plus à pouvoir prédire le fonctionnement des ordinateurs à partir de la connaissance de ce qui se passe à l'échelle des transistors, qu'on a la même ambition dans le domaine des sciences de la cognition, hein, puisque les neurosciences notamment veulent de plus en plus quand même prédire le comportement du cerveau à partir de la connaissance fine de ce qui se passe au niveau des neurones. Hein. Donc globalement, il y a cette ambition réductionniste de la réduction des phénomènes mentaux à des phénomènes physiques. Hein. Et de la même façon, les nanosciences explique un certain nombre de phénomènes du monde naturel, notamment par la connaissance de ce qui se passe à l'échelle moléculaire. Hein. Notamment, on comprend comment, alors j'ai dû voir de nombreux exemples, hein, comment certains lézards, par exemple, tiennent au plafond parce que on comprend qu'ils sont dotés de fils, de petits poils à l'échelle nanométrique qui s'accrochent aux molécules du plafond. Et donc, il semble que l'échelle nano soit l'échelle pertinente, en fait, la bonne échelle pour comprendre et pour réduire un certain nombre de phénomènes, autant issus de la vie naturelle que des processus artificiels, en fait. Hein. Voilà, donc la convergence, c'est ça. C'est une réduction de tout à l'échelle du nanomètre dans une démarche de décomposition du complexe au simple. Hein. Et avec l'idée donc que toutes ces disciplines vont se rejoindre à l'échelle de la compréhension des phénomènes moléculaires. Hein. Voilà. Donc lorsqu'on comprendra ce qui se passe à l'échelle des atomes et des molécules, on sera capable de prédire un certain nombre de phénomènes dans chacun de ces grands domaines. Et donc de plus en plus, faire de la biologie, ça va être faire des nanosciences, faire de la cognition, ça va être faire des nanosciences, etc., etc. Faire de la chimie, faire de la physique, toutes les disciplines d'ailleurs scientifiques vont finir par converger à cette échelle du nanomètre. Alors, cette convergence, c'est non seulement donc une méthodologie scientifique, mais c'est aussi quelque chose dont ces rapports américains voient beaucoup d'espoir, hein, puisqu'on trouve cette fameuse phrase dans ce rapport. Cette convergence est censée permettre le bien-être matériel et spirituel universel, l'interaction pacifique et mutuellement avantageuse entre les humains et les machines intelligentes, la disparition complète des obstacles à la communication généralisée, l'accès à des sources d'énergie inépuisables, la fin des soucis liés à la dégradation de l'environnement, etc., etc. Hein. Voilà, donc il ne s'agit pas de rien, hein, le bien-être matériel et spirituel universel, c'est quand même un petit peu ambitieux, hein, ça va sans dire, et évidemment c'est là encore très réductionniste. Hein. Alors si on, pardon, tout à fait, voilà, hein, alors si on creuse un petit peu, c'est vrai que c'est une société de totale communication entre le cerveau et les machines. Hein. C'est d'ailleurs la fin de la distinction entre les humains et les machines. Hein, c'est ça qui est clairement lisible. C'est une conception de l'homme, donc des sciences humaines, une fois encore très réductionniste. Hein, l'homme est réduit à ses gènes, à ses neurones. L'homme est vu comme une machine à retranscrire de l'information, hein, souvent. Et c'est vrai que ça s'inscrit dans ce mouvement plus général du transhumanisme. Hein, des promoteurs de ces rapports, notamment Ben Bridge, un sociologue des religions, étant lié lui de façon très directe au mouvement transhumaniste. Hein. Alors en quelques mots, donc ce mouvement transhumaniste qui nous vient des États-Unis, c'est une idéologie de l'amélioration des performances individuelles de l'homme, hein, et c'est globalement l'idée que il s'agit maintenant pour l'homme de prendre lui-même les rênes de son évolution, hein, c'est-à-dire que la sélection naturelle nous a fait tels que nous sommes, pas si mal, mais malgré tout avec encore un certain nombre de défauts, de travers, d'imperfections, hein, et il s'agit maintenant pour nous-mêmes de nous transformer en quelque sorte pour nous améliorer, hein, en ne laissant plus faire la nature, mais en prenant nous-mêmes les rênes de cette transformation par la technologie. Donc évidemment, nous doter de tout un tas d'artefacts, de puces, hein, dans le cerveau, par exemple. Pourquoi pas modifier nos membres, nous faire tout un tas de transplantations, hein. Pourquoi pas, je le dis tout de suite, avoir recours à des amputations volontaires, hein. C'est des choses qui sont en train de venir, hein, des membres synthétiques qui seraient plus parfaits que nos membres naturels. Et c'est donc globalement, voilà, nous modifier, nous rendre plus forts et plus performants. Performant de façon individuelle, hein, tout du moins tel qu'on le trouve dans ces rapports américains. Et c'est ça qui pose problème en grande part, c'est que c'est aussi une vision d'une société très individualiste. Hein. Il s'agit d'abord d'améliorer nos compétences physiques et mentales. Hein. Voilà. Alors le mouvement, je reviendrai un petit peu sur le mouvement transhumanisme, mais c'est vrai que vous savez qu'il nous vient des États-Unis. Il est maintenant présent en France. Hein, il existe depuis quelques années une association transhumaniste en France. Et ce sont des gens qui plaident globalement pour plus de libéralité dans la possibilité des transformations de toutes sortes. Hein, donc ils pensent qu'on reste frileux, par exemple, quant aux opérations du cerveau qu'on pourrait faire, quant à l'usage d'un certain nombre de substances qu'on pourrait faire, hein, et quant aux améliorations, par exemple, en termes de longévité qu'on pourrait peut-être obtenir grâce à la technologie. Hein. L'une des figures très charismatiques du mouvement transhumaniste est l'américain Ray Kurzweil, qui est maintenant conseiller scientifique de Google, en fait, hein, et qui travaille dans un institut qu'on appelle l'Institut de la Singularité. La singularité, selon Kurzweil, c'était le moment où les machines vont devenir de fait plus intelligentes que les êtres humains. Hein. Il a prédit ce moment, alors qu'il se situait à différentes, je crois que c'était 2030 initialement, enfin, il y a eu différentes chronologies. Donc de plus en plus, si vous voulez, c'est l'idée aussi que nous avons souvent, longtemps en fait, fabriqué des machines en prenant modèle sur les êtres humains. Nous avons voulu des robots qui soient de plus en plus humanoïdes. Hein. Il est possible que le paradigme se renverse dans la mesure où c'est maintenant l'homme qui va devoir prendre les machines comme modèle, en quelque sorte. Hein. Des machines qui vont devenir plus performantes que lui. Et nous allons peut-être rentrer dans une course avec les machines. C'est ça les thèmes que popularise Kurzweil. Donc il va falloir que l'homme se rende fort dans cette course, se situe dans cette course et trouve les moyens. Et cette course, il la perdra s'il ne se transforme pas lui-même, en quelque sorte. Hein. Voilà ce que nous dit Kurzweil. C'est quelqu'un qui également a pris la mort pour ennemi. Hein. C'est très intéressant de regarder l'histoire personnelle de Kurzweil. Il a été marqué par des drames familiaux de façon assez précoce, et il pense qu'il a la possibilité de ne jamais mourir lui-même, en fait. Hein. Donc il se dote déjà lui-même d'un certain nombre de substances, de drogues qu'il prend. Il pense sans doute que, quand bien même mourrait-il, il va être cryogénisé et que la médecine trouvera le moyen d'ici quelques temps de le ranimer. Enfin bon, voilà. Ce sont des thèmes transhumanistes très, très présents. Hein. Voilà. Donc, et une fois encore, les nanotechnologies, donc dès l'origine, ont été un peu liées à ce mouvement. Hein, c'est ça qui pose problème. Voilà. Alors, on trouve dans ces rapports des chronologies sur la façon dont les nanos, de façon très déterministe, vont se développer dans les années à venir, hein, entre des nanostructures passives dont on dispose déjà, pour aller à terme vers ces systèmes moléculaires dont parlait Drexler, hein, des petites synthèses, et de plus en plus de choses, notamment d'implants cérébraux, etc. Voilà. Alors, peut-être un petit peu vite. Donc, c'est vrai que... fort de toutes ces grandes visions, la NNI va également enrôler de façon assez précoce tout un tas de juristes, de toxicologues, de diététiciens même également, mais avec l'idée toujours qu'il faut se préparer à ce qui va venir de façon obligée. Hein. Donc on n'est pas du tout dans un registre de choix technologique, on est dans un déterminisme qui va s'imposer à nous et auquel il faut se préparer. Hein. Voilà qui a un peu pollué, je pense, ces débats sur les nanos dès l'origine. Alors, les Européens ont essayé de se démarquer hein, de tout ça, un petit peu terrifiés par ces perspectives. Bon, pour la petite histoire, c'est le prince Charles, notamment, qui a pas mal popularisé la question des nanos parce qu'il avait découvert un jour ce fameux risque de Grey Goo et ça a fait la une du Times, hein, que les nanotechnologies menaçaient le monde. Donc, les Britanniques ont émis un certain nombre de rapports. La Royal Society, la Royal Academy of Engineering ont en 2004 écrit des rapports sur les aspects éthiques, notamment, et toxicologique du développement des nanos, qui reste, je pense, d'actualité. Un Allemand, Alfred Norman, a coordonné également un rapport qui s'appelait « Technologie convergente, façonner le futur des sociétés européennes ». Alors, ce rapport européen, une fois encore, donc, veut se démarquer des visions américaines. On supprime toute idée d'augmentation. On ne parle plus de performance humaine, on parle d'ingénierie pour l'esprit et pas d'ingénierie de l'esprit. Et globalement, on essaie de promouvoir une société de la connaissance. Hein. Alors que c'est une société qui rend l'Europe compétitive. Ce n'est pas forcément une société très humaniste en tant que telle, mais c'est une société basée sur la connaissance plus que sur l'ingénierie de l'esprit. Bon, voilà. Alors, une fois encore, tout ça, je pense pas que ça ait impacté dramatiquement le développement propre des nanos, mais... ça façonnait le débat. Hein, et ces visions, notamment transhumanistes, ce sont celles qui expliquent en partie l'opposition sociale, parfois virulente, hein, violente aux nanotechnologies, notamment en Europe et en particulier en France. Hein. Donc voilà pourquoi il faut se rappeler qu'on vient de là, en quelque sorte, et que les choses ont émergé dans ce contexte. Alors, si on en vient maintenant à la catégorie des questions posées concrètement aujourd'hui par le développement des nanos. Alors, je procéderai donc en mentionnant un certain nombre d'applications. Qu'est-ce qu'on a fait avec toutes ces technologies depuis cette date ? On a des applications pour l'énergie et l'environnement, on a des applications des nanomatériaux proprement dit, on a des applications médicales, des applications dans l'informatique, les télécommunications et des applications militaires. Et chacune de ces applications sont riches à la fois de promesses et également d'inquiétudes ou de questions qui se posent. Alors, notamment, il y a une incertitude transversale qui est celle sur la nocivité des nanoparticules elles-mêmes et sur la possibilité d'un contrôle et d'une gestion des nanoproduits tout au long de leur cycle de vie. Et c'est ça, c'est une question que vous allez retrouver qui demeure largement ouverte aujourd'hui, c'est-à-dire on ne sait pas dans quelle mesure les nanoparticules sont dangereuses ou nocives pour l'homme. Je ne vais pas trop rentrer dans la toxicologie peut-être parce qu'il y a des experts qui vont parler juste après moi, mais évidemment ces particules, de par leur petite taille, ont notamment la capacité de pénétrer les cellules, voire de se retrouver dans le noyau des cellules, de franchir un certain nombre de barrières, etc., biologiques, et on découvre, alors il y a eu un certain nombre d'assimilations faites, par exemple des nanotubes de carbone qui rappelaient un petit peu la problématique de l'amiante sur leur fonctionnement au niveau cellulaire. Inquiétude sur la nocivité des produits eux-mêmes. Voilà. Et ça, une fois encore, ça impacte l'ensemble des applications aujourd'hui. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, alors, en termes d'énergie et d'environnement, on attend et on a déjà beaucoup de choses permises par les nanotechnologies. Alors, par exemple, des piles à combustible, on en attend beaucoup dans les batteries, batteries ultra performantes, notamment pour les voitures électriques, notamment parce qu'elles permettent des catalyses plus efficaces. Stockage, je ne sais pas quelle est l'actualité exacte de ça, mais stockage de l'hydrogène par des nanotubes de carbone, par exemple. J'ai cru comprendre qu'on était un peu revenu de ça, mais vous savez que le stockage d'hydrogène est perçu comme une énergie d'avenir, permettant notamment de stocker les énergies intermittentes. C'est le gros problème des renouvelables qui restent intermittents, mais peut-être que grâce aux piles à hydrogène, on pourrait les rendre plus durables en quelque sorte. Les nanos permettent des progrès dans les isolations, dans les ampoules, beaucoup d'économies par allègement des structures qu'on trouve notamment dans les véhicules. Je crois qu'une voiture en moyenne aujourd'hui contient 10 kg de nanomatériaux. Ça fait beaucoup, beaucoup de nanoparticules évidemment. Des panneaux solaires à haut rendement, des cellules solaires applicables un petit peu partout, etc. Et puis, plus généralement, on reste sur cette ambition de construire plutôt que de réduire, comme on parlait déjà tout à l'heure, avec donc l'espoir d'une réduction de l'impact environnemental en termes de consommation de ressources et de pollution. Les nanos servent également à épurer l'eau par des filtres à nanoparticules, Donc on espère, grâce à elle, résoudre un certain nombre de problèmes de pays du tiers-monde, notamment, qui ont des problèmes d'accès à l'eau potable. Hein. On espère, pourquoi pas, dépolluer les sols par injection de nanoparticules, agir contre les sols pris par les pesticides, par exemple. Donc voilà, les nanos se présentent parfois comme un domaine vert, en quelque sorte, hein, qui va nous aider à la transition écologique et qui a des applications en termes d'énergie et d'environnement. Alors, le problème, si vous regardez d'un peu plus près, c'est que les choses ne sont pas si simples. Donc on a ce problème de nocivité des particules. On a la nécessité de faire des bilans énergétiques avec vraiment en prenant en compte toutes les externalités, hein, c'est-à-dire toutes les conséquences a priori pas anticipées des processus. Et il est vrai que à côté de ça, les processus, certes les nanos peuvent donner lieu à des processus peu énergivores, mais leur production elle-même reste souvent très énergivore. Hein. C'est le cas des nanotubes de carbone, par exemple, qui restent très très gourmands en énergie et en eau. Hein, en électricité et en eau, c'est le cas vous savez que les salles blanches, par exemple, des laboratoires de recherche en nano, sont très très gourmandes en énergie. Hein, c'est plusieurs millions d'euros de factures annuelles. Voilà, donc peut-être d'autre part que l'impact général du cycle de vie des nanomatériaux pourrait être beaucoup plus important que celui des matériaux traditionnels si on prend en compte la façon dont les particules vont s'installer elles-mêmes dans les sols de façon durable et d'une façon qu'on ne connaît pas encore très très bien. Hein, donc le remède n'est-il pas pire que le mal dans ce domaine, hein. C'est ce que font valoir un certain nombre d'associations écologistes, notamment. Alors, c'est pareil, se greffe aussi, bien sûr, à ça un certain nombre de problèmes politiques. Et là, on retrouve des exemples classiques comme celui des OGM. Hein, c'est-à-dire, il est un peu, sans doute, naïf de penser que les technologies par elles-mêmes vont résoudre un certain nombre de problèmes mondiaux. Par exemple, comme celui de l'accès à l'eau potable, qui est surtout un problème politique. Hein, et notamment, il est vrai que les pays pauvres ont aujourd'hui très peu accès aux avancées des nanotechnologies, ne fût-ce que parce que les brevets restent très largement dominés par les pays occidentaux et qu'ils ne sont pas du tout décidés à faire des nanos génériques, en quelque sorte, hein, qui sont très attachés à la protection de leurs brevets. Donc, s'il n'y a pas de volonté politique, la technologie elle-même ne suffira pas à résoudre les problèmes du monde. Ça, c'est à peu près évident. Hein. Alors, on mentionne également parfois le risque de rupture technologique au sens où un pays qui posséderait ces technologies entrerait sans doute dans une course très déloyale par rapport aux pays qui ne les possèdent pas, de sorte que cette fracture souvent mentionnée entre les riches et les pauvres ne ferait que s'aggraver en quelque sorte, hein, plutôt que de se résoudre comme l'espère pouvoir le faire le développement durable. En fait, hein. Voilà. Alors maintenant, si on en vient aux nanomatériaux, donc là aussi on en attend des choses dans de très très nombreux secteurs. Parce qu'une fois encore, c'est la structuration moléculaire permet de faire des matériaux plus solides, auto-nettoyants, antibactériens, antipolluants. Donc il existe déjà un certain nombre, enfin de très nombreuses choses un peu partout, dans l'automobile, pour les articles de sport, les textiles, les constructions, les cosmétiques, l'alimentaire, etc. Dans tous ces domaines, on rencontre le même problème. Nocivité des particules, quel est le bilan global de ces applications? N'est-on pas, alors il y a un certain nombre de débats qui se font souvent à ce sujet, n'est-on pas dans une course à la futilité? Hein, il est vrai que les nanotechnologies ont souvent permis l'émergence de certains gadgets. Hein, on parlait tout à l'heure des chaussettes des chaussettes anti-odorantes, voilà, alors, okay, dans lesquelles on met du nano-argent et dont on sait que 70% du nano-argent se retrouve dans l'environnement après quelques lavages, hein, c'est ce qui a été montré. Donc n'est-on pas en train de brader notre environnement pour un petit avantage qu'on pourrait évidemment, dont pourrait se passer, hein, de même qu'une chemise qui se défroisse pas ou des choses comme ça. Enfin, il y a beaucoup de gadgets. Hein. Alors beaucoup dénoncent une sorte de fuite en avant technologique au détriment de solutions simples, hein, pour tout un tas de problèmes. Hein. Bon, on a de très très nombreuses applications des nanos, hein, des surfaces auto-nettoyantes, de voitures, des revêtements de bâtiments, de façon à ce que les bâtiments restent toujours blancs, ne se salissent pas, etc. Hein. Voilà, gros débat à ce sujet. Quatre nanomatériaux sont en particulier souvent incriminés, hein, notamment dans les débats mettant en relation la société civile. Alors, j'en dis quelques mots parce que ce sont eux qu'on retrouve vraiment le plus souvent. Alors le nano-argent, hein, effectivement, très connu pour ses propriétés antibactériennes, qu'on met depuis longtemps un petit peu partout, notamment dans les hôpitaux, lutter contre les maladies nosocomiales, mais également sur tout un tas de choses de l'informatique, même sur certains jouets pour enfants, hein, sur des pansements, sur tout un tas de choses pour lutter contre les bactéries. Et dont, effectivement, on est en train de comprendre les problèmes associés, notamment le risque majeur, sans doute aujourd'hui d'ailleurs, qui est celui de résistance bactérienne, en fait, hein, entraînée par le nano-argent, c'est-à-dire que les bactéries deviennent de fait plus puissantes. Hein, c'est quelque chose qui est mis en évidence aujourd'hui par l'ANSES, hein, notamment l'Agence nationale sanitaire française. Voilà, donc problème sur le nano-argent, problème sur les nanotubes de carbone, je vous en parlais tout à l'heure, hein, ces sortes de produits miracles dont on découvre qu'ils peuvent être très dangereux, hein, pénétrer un petit peu partout dans nos cellules. Et il y en a des types très différents, hein, de par leur longueur, de par leur largeur, de par savoir s'ils sont multiparois ou une seule paroi. Et ce qu'on découvre aussi progressivement sur tous ces produits, c'est qu'on a le plus grand mal à avoir des données fiables sur la toxicité qui dépend d'énormément de paramètres. Hein. 5 nanomètres dans une taille de particule peut tout changer de sa toxicité, par exemple pour l'homme. Hein. Donc ce qu'on réalise également, c'est qu'on n'aura pas de toute façon les moyens matériels de tester toutes les particules qu'on pourrait, et d'ailleurs qui sont déjà sur le marché. Hein. Si on voulait aujourd'hui, je crois, tester toutes les particules qui sont déjà sur le marché, il faudrait que tous les chercheurs du monde y consacrent toutes leurs activités pendant 50 ans. Hein. Donc c'est juste impossible. Hein. Voilà, donc nanotubes de carbone, et puis deux autres produits qui sont très très souvent cités, le dioxyde de titane et la nanosilice. Hein. Alors nanosilice notamment pour ses applications alimentaires, on en trouve depuis longtemps partout, dans des additifs alimentaires notamment, le E550, E551, que vous trouvez dans le sel par exemple, dans le sucre, enfin, dans tout un tas de produits pour éviter des agglomérations notamment. Hein. Ce sont des additifs qui sont autorisés depuis longtemps, mais sous l'étiquette desquels on fait dans les faits des produits de plus en plus petits. Hein, et dont on ignore en fait la toxicité, hein, dont on comptait très mal la toxicité. Voilà. Donc sont présents dans le domaine alimentaire, hein, depuis longtemps, notamment la silice. Et puis autre produit dont vous entendrez sans doute parler, le dioxyde de titane. J'imagine peut-être avez-vous entendu parler il y a quelques jours, puisque c'est notre ami José Bové lui-même, hein, voilà, qui s'est emparé de la... Voilà, hein, de la question du E171, hein, sur ce dioxyde de titane qui est très présent dans les bonbons notamment. Hein, voilà, c'est un pigment blanc dans les M&M's, tout un tas de chewing-gum, etc. Voilà, et qui est donc dont on se pose pas mal de questions sur la toxicité. Alors, bon, là encore, hein, il faut faire la distinction entre ce qui se dit dans la société, ce qui se dit dans le grand public et ce qui se dit dans la réalité scientifique. Hein. Moi, ce que j'entends dire, c'est que le dioxyde de titane n'est pas si dangereux que ça par ingestion. Hein. Ça semblerait que sont quand même les données de la toxicologie. Il est dangereux par inhalation, mais quand même sans doute moins, pas tant que ça par ingestion. Mais il y a un gros problème de transparence et de données fiables à ce sujet. Hein. Voilà. Donc voilà pourquoi ces produits-là ont été un peu mis sur la sellette. Et c'est vrai qu'en tout cas, des applications dans l'alimentaire, dans les cosmétiques, il est très présent dans les cosmétiques, le dioxyde de titane également, sont inquiétantes. Voilà. Alors, si j'en viens maintenant, le temps passe très vite, alors si j'en viens aux applications médicales, là aussi, tout un tas de questions se posent, parce qu'on attend beaucoup des nanotechnologies en médecine pour faire un certain nombre de choses, notamment en termes d'examen et de diagnostic des maladies, en termes de thérapie proprement dite et en termes de suivi du patient. Hein. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais notamment les biopuces, les laboratoires sur puces qui permettent des diagnostics très précoces, hein, des nouvelles thérapies contre le cancer, par exemple, qui seraient plus adaptées que les chimiothérapies classiques. En termes de suivi du patient, les nanotechnologies s'inscrivent de plus en plus dans ce qu'on appelle le champ de la médecine personnalisée, hein, où on va de plus en plus adapter les traitements aux patients eux-mêmes plutôt que de donner des protocoles les mêmes pour tout le monde. Voilà. Alors, donc là, c'est un domaine dans lequel, a priori, on pourrait ne pas trop se poser de questions, parce qu'il y a des protocoles médicaux qui sont quand même en place depuis longtemps. On fait dans le domaine médical des analyses bénéfice-risque. Normalement, les médicaments sont testés. On a des autorisations de mise sur le marché des médicaments, alors qu'on n'en a pas sur d'autres, la plupart des autres produits. Hein. Mais néanmoins, même dans le champ médical, qui pourrait être le moins discutable, en quelque sorte, se pose un certain nombre de questions, notamment ne fût-ce que vis-à-vis de la toxicité des particules employées. Hein, là encore, les choses ne sont pas. On est quand même encore dans un contexte d'incertitude. Et puis surtout, tout un tas de questions éthiques émergeant dans le champ de la médecine. Alors, par exemple, les laboratoires sur puce vont permettre de diagnostics de plus en plus précoces. Hein, en quelle mesure ça va changer les relations entre les médecins et les patients ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est bon de révéler à un patient sur les pathologies qu'il porte en lui et qu'il sera amené à développer dans 10 ou 15 ans, par exemple. Surtout dans le cas où ces pathologies ne bénéficieraient pas de traitements connus. Hein. Alors ça, c'est une question d'éthique. Est-il bon de connaître nos fragilités vis-à-vis d'un certain nombre de problèmes à venir, hein. Est-il bon de connaître ce qui nous détermine ? Est-ce compatible avec une vie heureuse, en quelque sorte, et une vie bonne, hein. Question d'éthique classique, mais que les nanos... Je ne pense pas que les nanotechnologies amènent des problèmes radicalement nouveaux. Disons qu'elles vont surtout amplifier des problèmes assez classiques qui existent dans le champ de l'éthique médicale, notamment. Hein. Voilà, donc quoi révéler à un patient ? Et surtout, vous imaginez la pression qui va peser sur toutes ces données de plus en plus, hein, notamment pression exercée par les assurances, les employeurs, hein, les banques, voilà, tout à fait. Vous savez à quel point il est difficile d'obtenir un crédit immobilier, ne fût-ce que ça aujourd'hui, hein, à quel point vous devez montrer patte blanche. Vous imaginez que si en plus il y a disponibilité de données sur vos maladies potentielles, etc., il y aura de fait une grosse pression, de même que chez les employeurs, hein, qui vont vouloir connaître de plus en plus de choses des gens qui sont susceptibles d'embaucher. Hein. Voilà, donc tout un enjeu de protection des données, comment protéger ces données, tout en sachant en plus que tous ces progrès de la médecine ne seront permis justement que par le croisement de tout un tas de données issues de tout un tas de patients. Hein. Et cette problématique de la protection des données, elle est générale, hein, vous êtes au courant des problèmes de la NSA, etc., mais en particulier dans le domaine des médicales, comment l'organiser, ça ne va pas être simple du tout. Hein. Voilà. Alors, il y a d'autres controverses sur le cadre des tests et des expériences. Alors, on rejoint le transhumanisme sur l'amélioration du corps humain. Hein. En médecine, il est, je crois, de plus en plus difficile de savoir où est la frontière entre réparer simplement un organe déficient ou l'améliorer, hein, avec sans doute une volonté de la médecine qui sera souvent de pousser un petit peu quand même au traitement. Hein, ça, on l'a vu par exemple dans un certain nombre de controverses du passé sur des malentendants, par exemple, qu'on dotait de façon très volontariste d'un certain nombre de prothèses, ce qui avait tout un tas de conséquences sociales néfastes, parce que notamment ces gens-là n'entendaient pas très bien et en même temps avaient perdu, par exemple, l'usage du langage des signes qui les rattachait à une communauté. Hein, donc il va y avoir tout un tas de conséquences comme celle-là, avec une médecine qui quand même a toujours qui reste très ambitieuse, finalement. Hein. Voilà, alors des choses qu'on a entendues pendant le débat public en 2009-2010, c'était aussi est-ce qu'on n'est pas en train de soigner par la technologie des mots créés par la technologie elle-même ? C'est tout le débat de société. Vous savez qu'on souffre surtout de troubles cardiovasculaires qui sont liés à notre mode de vie, au fait qu'on ne bouge pas beaucoup, etc. Est-ce qu'on n'est pas dans une course sans fin, finalement, à l'amélioration technologique plutôt que d'avoir une vie meilleure, une vie plus saine, en quelque sorte. Bon, c'est une controverse qui n'est pas simple, hein, mais donc qui revient souvent. Et puis, il y a peut-être des problématiques émergentes, hein, comme celle, par exemple, on envisage des nanorobots, par exemple, qui se promèneraient dans nos artères pour cibler d'eux-mêmes les cellules cancéreuses, par exemple, et prendre eux-mêmes un certain nombre de décisions, pourquoi pas, de soins. Hein. Alors, ça va poser des problèmes pratiques et des problèmes d'éthique, de responsabilité nouveaux, sans doute. Hein. Comment se plaindre d'un robot qui aurait pris certaines mauvaises décisions dans notre corps, en quelque sorte. Hein. Comment doter même ces robots on a déjà un petit peu le problème avec les voitures sans pilote, hein, vous savez, qui se développent beaucoup, qu'on doit doter de procédures de décision, par exemple. Il est préférable d'écraser un petit chien que d'écraser une grand-mère qui traverse, par exemple. Bon, on doit leur faire faire ce calcul de décision, hein, c'est pas simple. Comment on va doter ces robots également de procédures de décision un peu éthiques, voilà. Bon, donc tous ces problèmes-là se posent. Alors, dans le domaine de l'informatique et des télécommunications, je dirais deux mots des puces RFID. qui sont discutés. Alors, les RFID, vous savez, c'est ces dispositifs qui permettent de stocker de l'information, hein, par exemple, ils vont remplacer les codes barres permettant de faire des grandes. Dans des entrepôts industriels, par exemple, d'avoir un catalogue rapide de tous les produits qui existent en envoyant des ondes, en fait, auxquelles répondront des tags RFID. Les RFID, peut-être, ne deviendront jamais nano. Alors, on entend souvent ça. On attend un jour des RFID nano. Il semblerait que pour des raisons physiques, ce soit juste impossible. Hein, en termes de il faut une antenne, en fait. Donc, on sera plus gros que le nano. Mais il est vrai que, de par la présence de composants électroniques nano, les RFID vont, de fait, devenir de plus en plus petits. Ça, c'est évident. Et pourquoi pas invisibles. Hein. Donc, avec tout ce que ça pose en termes de possibilités de surveillance nouvelles et auxquelles il va falloir contre lesquelles il va falloir se prémunir. Hein. Donc, c'est quelque chose sur laquelle, par exemple, la CNIL, en France, a beaucoup insisté, la Commission nationale des informatiques et des libertés. À partir du moment où toutes ces puces vont devenir invisibles, on risque de franchir un seuil, en quelque sorte, sur le contrôle qu'elles vont rendre possible. Hein. Et pourquoi pas un seuil irréversible, pourquoi pas en arriver à oublier, finalement, tout un tas de capteurs qu'on aurait disséminés autour de nous, dans l'environnement, ou sur chacun d'entre nous, et qui donneront des données sur nous à notre insu, hein. Qui pourront être analysées et retranscrites. Alors, j'aime bien donner un tout petit exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là assez récemment. C'est juste pour montrer le pouvoir de la collecte d'informations. C'est une histoire qui s'était passée aux États-Unis où une jeune fille de 16 ans recevait, sans les avoir demandé, des produits destinés à des femmes enceintes, en fait, hein, chez elle. Et le père de cette jeune fille a fini par aller se plaindre auprès des chaînes de magasins, pour savoir pourquoi ces produits étaient envoyés à cette fille. Et il s'est avéré que cette fille était finalement enceinte. Hein. Elle était finalement enceinte, elle ne le savait pas, son père ne le savait pas non plus lui-même, évidemment. La seule personne qui le savait, en quelque sorte, c'était les machines qui avaient fait l'analyse fine de ses habitudes de consommation à partir des produits qu'elle achetait, en fait. Hein, voilà. Donc, automatiquement, c'était constitué une connaissance de l'intimité de cette jeune fille qui avait été, en premier lieu, donc divulguée aux chaînes de magasins. Hein, voilà. Donc, je pense que ça illustre bien le pouvoir de la collecte de l'information et de la rationalisation de la collecte de l'information. Hein, voilà. Un problème parmi d'autres. Bon, énormément de controverses dans le domaine militaire également, domaine d'investissement majeur. Hein, vous savez que les nanos, avant tout, je crois que c'est Israël d'ailleurs, hein, l'État d'Israël qui est en point dans les nanotechnologies, notamment dans le domaine militaire. Hein, et comme toujours, c'est le domaine qui tire l'évolution technologique. Avec tout un tas de problèmes. Vous savez qu'on est par exemple en train de faire des insectes pilotables à distance, hein, qu'on est capable de greffer sur des larves de scarabées des petites électrodes qui vont se développer en même temps qu'eux, de sorte d'être capable de les manipuler à distance, de les faire tourner à droite ou à gauche, de les envoyer explorer des cibles, etc. Alors, imaginez tous les problèmes d'éthique que ça pose. Hein, les associations de défense des droits des animaux, évidemment, sont tout à fait offusqué. Voilà. Et évidemment, il y a le risque aussi que toutes ces technologies... Alors, ces technologies dotent déjà les soldats. Hein. De fait, vous ne pouvez pas travailler aujourd'hui dans l'armée américaine si vous n'acceptez pas de porter une puce. Hein, c'est aussi simple que ça, parce que l'état-major a besoin de connaître à chaque instant vos données biologiques, hein, votre capacité à résister à la fatigue, votre état de sommeil, etc., etc., votre glycémie, enfin. Donc, il va y avoir une pression de fait sur un certain nombre de fonctions comme ça, avec des risques également de dérive vers les populations civiles, notamment dans les usages de dispositifs de surveillance. Hein. Alors, certains ont même mentionné le risque de perte de la dissuasion mondiale. Hein, on a vécu sur un âge de la terreur grâce à l'arme nucléaire, une sorte d'équilibre de la terreur, de la la dissuasion nucléaire. Pourquoi pas aller vers des armes qui relègueraient l'arme nucléaire à l'Antiquité et qui donc occasionneraient cette perte d'équilibre, en quelque sorte. Hein. Le nucléaire ne serait plus dissuasif. Voilà. Bon, je ne sais pas quelle est la réalité exacte de cette crainte, mais c'est vrai qu'on a ces inquiétudes. Voilà. sans parler du problème éthique, je pense, hein, de la somme des investissements consacrés à l'armée et aux efforts de guerre plutôt qu'aux efforts de paix. Hein. On est à l'échelle mondiale. Hein. Bien qu'on puisse dire que si tu veux la paix, prépare la guerre, sans doute, mais voilà, moi, je pense que c'est parfois mentionné quand même. Hein. Voilà. Bon, donc. Tout un tas, voilà. Donc, on regarde toutes ces applications de risques, d'inquiétudes, de questions. Et puis, alors, les philosophes eux-mêmes se sont emparés des effets des nanotechnologies, ont essayé d'expliquer que nous allions vers un brouillage des catégories, globalement, en termes de nanotechnologies, que plus en plus, nous allons reconstruire le monde autour de nous, nous n'allons plus être environnés que d'un monde artificiel, hein, ce qui va sans doute. En quelque sorte, faire perdre une part de notre naturalité, quoi, dans une confrontation à quelque chose qui était une nature indépendante de nous. Hein. Donc, une sorte de brouillage des catégories développées par les nanos. Je voudrais un exposé sur les aspects éthiques. De toute façon, je ne vais pas du tout avoir le temps de faire. je voudrais juste peut-être, juste pour vous montrer, si vous êtes un peu dans le sens de la santé, je reviens un peu sur la bioéthique. Hein. Pour soigner, on s'est doté d'un certain nombre de... On s'est doté d'un certain nombre de principes. Hein. Les principes des médecins, depuis les années... la bioéthique s'est instaurée assez tôt en discipline et s'est dotée d'un certain nombre de principes. Autonomie, principe du consentement informé du patient. Hein. Vous ne pouvez normalement soigner quelqu'un que si vous obtenez son consentement informé. Hein. Bienfaisance, nécessité d'une prise en compte des risques et des bénéfices des différents actes de soins. Vous devez faire une analyse bénéfice-risque avant de mettre un médicament sur le marché. Non-malfaisance, avant tout, Hippocrate nous disait, avant tout, ne pas nuire, hein, principe important. Et justice, ne pas faire de discrimination, ne pas avantager uniquement les plus favorisés, etc. Je veux juste vous faire comprendre que les nanotechnologies sont susceptibles, ou tous ces processus, de rendre difficile l'application de ces principes. Hein. Par exemple, le consentement informé. Est-ce qu'on peut vraiment obtenir le consentement informé d'un patient dans la mesure où on n'est pas capable de le renseigner à 100% sur les risques que vont lui faire occasionner les produits qu'on lui va donner, hein. Et dans la mesure où on n'est pas capable de faire vraiment une approche bénéfice-risque pour un certain nombre d'applications. On parle de la dignité humaine, hein, respect de la dignité humaine comme principe essentiel. Mais qu'en est-il de la dignité humaine dans les questions de l'amélioration humaine, hein, c'est tout le problème du transhumanisme. Ça veut dire quoi, la dignité humaine? Ça veut dire rester dans l'homme tel qu'il est avec ses limitations actuelles, ou ça veut dire lui permettre de devenir plus fort ou plus résistant grâce à un certain nombre d'artefacts, hein. Donc comment on va interpréter ce principe de dignité humaine dans des cas d'amélioration humaine tels que nous les promeut le transhumanisme, hein. Voilà, donc juste pour dire qu'on va vers des brouillages qui sont aussi des brouillages philosophiques et éthiques, en quelque sorte, hein, relativement à toutes ces nouvelles applications. Bon, alors que faire en 3 minutes regarde tout ça. Peut-être, alors juste, bon, de toute façon, je pense qu'on va parler, on va reparler des produits déjà présents sur le marché, il y en a beaucoup, il va y avoir des choses sur la réglementation. C'est pas, c'est donc une fois encore, c'est très très loin d'être des instruments de recherche, hein, ces nanos, elles sont présentes, hein, mais je pense qu'on vous le redira. En France, on s'est doté d'une déclaration obligatoire de ces produits. Il y avait près de 500 000 tonnes de nanomatériaux déjà présents en France, hein, sur le marché français, avec en premier lieu le noir de carbone, très utilisé dans les pneus depuis longtemps, mais qui est maintenant considéré comme un nanomatériau au regard des définitions qu'on s'est données. Et la dioxyde de silice, hein, le SiO2 dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les plus présents. Dioxyde de titane vient peu après. Hein. Donc une réalité déjà manifeste, hein, de produits, très très nombreux produits sur le marché, et un contexte de grande incertitude. Hein, mais là, une fois encore, il y aura des exposés sur la toxicologie. Je dirais juste un mot. Vous savez que le risque, on évalue le risque comme le produit du danger et de l'exposition. les données sur le danger, on est incapable de les connaître avec précision aujourd'hui. Hein. Il faudra sans doute attendre 10 ou 20 ans pour qu'on y voit un peu plus clair en termes de savoir quel produit est vraiment dangereux ou quel ne l'est pas. D'où la nécessité, au moins, autant qu'on puisse le faire, d'essayer d'avoir quelques données sur l'exposition. Hein. La loi de déclaration obligatoire en France, j'imagine qu'on va vous en reparler, elle est surtout dédiée à ça, à l'origine, avoir quelques données d'exposition, même si elle est sûrement très mal faite pour pouvoir donner ces données, c'est autre chose, mais avoir des données d'exposition, savoir au moins à quoi on est exposé. Hein. Et une fois encore, je le redis, il va sans doute falloir sortir d'une approche au cas par cas, qui a souvent été l'approche environnementale traditionnelle, hein, parce qu'on ne pourra pas le faire en termes de nanotechnologie. Hein, ça ne s'y prête pas, tout simplement. Hein. Alors, peut-être pour conclure sur tout ça, que faire hein, aujourd'hui, que faire alors, sans doute, il faut des réglementations de plus en plus contraignantes. Hein, je pense qu'on en reparlera aux différents niveaux, en France, en Europe, dans le monde. Il faut sans doute aussi informer le grand public, hein, ce qui n'est pas du tout facile à faire. Ah bon, j'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails quand même. Alors, un mot sur le. On a eu au moins cette tentative de faire en 2009-2010 un débat national sur la question des nanotechnologies. Un débat national qui, en quelques mots, s'est très mal passé, hein, a été très très perturbé. Alors, pour tout un tas de raisons. En France, on a une procédure de débat national qui est un petit peu particulière, qui est un peu unique au monde d'ailleurs, qui normalement doit avoir un lien direct avec la décision. Hein, c'est-à-dire que la loi française, elle dit que sur un certain nombre de sujets, on peut organiser des débats. Et dans un délai de 3 mois, les ministères qui ont commandé ces débats, en quelque sorte, doivent donner leur décision. Alors, c'est ce qu'on a fait en 2009-2010 sur la question des nanos, en posant la question... Qu'est-ce qu'on fait des nanos, globalement? Où est-ce qu'on fait porter les efforts? Quels sont les besoins, etc. Donc, la démarche était méritoire. Elle était également très ambitieuse, parce qu'il s'agissait, en organisant 10 séances sur tout le territoire national, d'évoquer l'ensemble de ces questions, en faisant venir des gens avec des niveaux d'information très, très différents les uns des autres, entre des gens qui n'y connaissaient pas grand-chose, parce que le grand public, en termes de nanotechnologie, reste globalement très ignorant. Hein, et puis des gens qui étaient très informés, des industriels notamment, qui voulaient surtout faire avancer leurs produits, etc. etc. Donc c'est dur à mettre en œuvre. Et en plus de ça, ce débat, il a été très très perturbé donc par une association hein, dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Pièces et Main d'œuvre, qui est originaire du contexte de Grenoble, et qui s'est mis en tête juste d'empêcher le débat, hein, avec l'idée globalement que participer, cautionner, que débattre, c'était déjà cautionner, hein, c'était déjà sanctionner un certain nombre de décisions qui étaient déjà prises. Bon, on pourrait discuter longtemps, ils ne sont pas complètement torts hein, sur les décisions qui sont voilà, les décisions qui sont déjà prises. Hein, il était difficile de faire marche arrière hein, sur un certain nombre de choses en termes de nanotechnologie, mais il faut reconnaître que d'avoir perturbé ainsi le débat, je pense que ça n'a eu malgré tout que des conséquences négatives, hein, parce que les nanotechnologies ont continué à se répandre, mais elles le font aujourd'hui avec de plus en plus de secrets, hein, d'opacité. Il y a une omerta généralisée sur le sujet. C'est un sujet très sensible. Hein, c'est difficile de faire parler des gens, d'organiser des débats aujourd'hui à ce sujet. Hein. Voilà. Alors, PMO, bon, en deux mots, il faudrait détailler. Ce sont des gens qui, à l'origine, étaient des opposants au nucléaire et qui se sont un peu reconvertis dans la critique des technologies, des nanotechnologies, et avec lesquels il est très difficile de discuter parce qu'en plus, et là encore, c'est pour ça que j'ai commencé par vous parler des projets de société, parce que je pense que le débat reste pollué par toutes ces visions auxquelles on associe les nanos. Hein. C'est-à-dire que si vous essayez de discuter avec PMO des quantités admissibles de telle ou telle substance, des seuils qu'on pourrait se donner, etc., ils refusent catégoriquement parce qu'ils sont contre ce qu'ils appellent le nanomonde, dans son ensemble, hein, qu'ils voient comme un monde foncièrement mauvais, anti-humaniste, aliénant, un monde de totale surveillance, etc. Donc, ils ont une argumentation à géométrie variable et avec laquelle on peut tout simplement pas se positionner. Hein. Voilà. Donc, ça pose des questions. Comment on fait en France aujourd'hui pour avoir des discussions démocratiques? Ça, c'est un autre problème. Hein. Vous savez que c'est de plus en plus difficile. Hein. On ne peut pas discuter des déchets nucléaires, on ne peut pas discuter des OGM, on ne peut pas discuter des barrages à droite à gauche, on ne peut pas discuter des nanotechnologies. Ça, c'est un vrai problème démocratique. Hein. On a cette culture démocratique, normalement, qui est écrite dans nos lois. Elle est de plus en plus difficile à mettre en œuvre. Hein. Et les nanos ne sont qu'un exemple parmi d'autres de cette question. Hein. Voilà. Alors, Je terminerai tout ça, la parole au débat pour le coup, en disant que simplement à côté de ça, si vous regardez le grand public, hein, je pense que les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis le débat public de 2009-2010. Le grand public reste globalement très ignorant, hein, très très ignorant de ce qui concerne les nanotechnologies, et plutôt globalement d'ailleurs favorable en fait au progrès. Hein. Je pourrais vous montrer ça a peut-être un peu bougé depuis le débat, mais je pourrais vous montrer des sondages qui ont été faits là-dessus. Le grand public ne s'inquiète pas au sujet des nanos comme il s'inquiète des déchets nucléaires, comme il s'inquiète des OGM ou comme même il s'inquiète des ondes portables. Hein, je pense ça vient un peu, mais globalement, le grand public est plutôt optimiste quant aux découvertes technologiques à ce sujet. Hein, donc il faut séparer certaines visions de la société des visions du grand public. Hein. Bon, j'ai des étudiants qui ont fait un petit micro-trottoir à Lille sur le sujet tout récemment, là, en interviewant des gens sur les nanotechnologies. La plupart ne savaient pas ce que c'est. Quelques-uns avaient entendu parler des inquiétudes sur le long terme, sur la nocivité des produits et des applications médicales essentiellement. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Les questions.
Bon, merci. Comme d'habitude, il y aura encore d'autres interventions. Et monsieur Ayotte est là aussi pour nous parler de la façon dont justement des donneurs d'alerte, pourquoi pas, réagissent par rapport aussi à toutes ces données. Donc merci comme toujours, hein, c'est passionnant. Donc y a-t-il des questions dans la salle? La première est toujours la plus difficile après. Vous saviez tout ça sur les nanos? Vous étiez au courant de ces informations? Mais, ah, voilà. Lancez-vous.
Bonjour, Jean-Christophe Deneville. Donc moi, je suis doctorant en informatique et ça m'a un peu surpris quand vous avez parlé de nanosilice, notamment les applications dans le secteur alimentaire. Je me demandais s'il y avait éventuellement, enfin, c'est pas du tout mon domaine, les nanotechnologies. Je voulais savoir s'il y avait des applications dans l'informatique, dans les plaques de silicium, ce genre de choses, pour avoir. On parle souvent de la loi de Moore avec une limitation avec la taille des transistors. Je me demandais s'il y avait, qu'est-ce qui existait au niveau de la nanosilice, le nanosilicium.
Alors, il faut distinguer les choses. Hein. Alors, il y a évidemment énormément d'applications en électronique parce qu'on veut faire une électronique de plus en plus moléculaire, en fait, hein, avec des composants de plus en plus petits et miniaturisés. Hein. Pourquoi pas d'ailleurs une électronique qui serait faite par certaines, une bioélectronique en fait, hein, qui serait basée sur certaines molécules d'origine végétale. Hein, j'avais entendu des choses comme ça. La silice que vous trouvez dans les applications alimentaires, c'est pas la silice cristalline que vous trouvez dans l'électronique. Hein, c'est de la silice amorphe en fait, hein, du SiO2 amorphe en fait, qui est utilisé pour les applications alimentaires. Hein. Je crois qu'elle est cancérigène, la silice cristalline en fait. Hein, donc, et par contre, il y a des différentes. Je suis pas spécialiste, mais il y a des silices, comment ils appellent ça, précipités, pyrogénés, des applications dans le domaine alimentaire de la silice. Il y en a depuis très très longtemps en fait. Hein, et il y en a de très nombreuses sortes en fait. Hein. Donc voilà, donc il y a énormément d'applications dans l'informatique, ça c'est évident, dans la miniaturisation des composants. Je crois que l'avion Solar Impulse, là, dont vous avez entendu parler, est déjà doté d'une électronique qui est très largement nanométrique en fait. Hein. Et puis dans l'alimentaire, il y a tout un tas. D'ailleurs, il y a la silice, mais il n'y a pas que la silice. Hein. Je crois qu'il y a aussi l'oxyde de zinc qu'on cite beaucoup. Il y a tout un tas d'autres produits. Le dioxyde de titane également a des applications. On le disait tout à l'heure, des applications alimentaires. Et il y a tout un tas d'autres produits. Alors, le problème de l'alimentation, c'est que ça se fait souvent dans un grand secret. Hein. Pour vous donner un exemple, en 2009-2010, pendant le débat public, les industriels disaient qu'il n'y avait pas d'application alimentaire des nanomatériaux, hein, des nanotechnologies, c'était le credo absolu. Et depuis, on s'est entendu sur, parce qu'il y a le problème de la définition, hein, on s'est entendu sur une définition à l'échelon européen de ce qu'était un nanomatériau. Je pense que d'autres reviendront là-dessus. Hein, c'est un matériau qui contient au moins 50% en nombre de particules assez petites, comprises entre 1 et 100 nanomètres. Et si vous prenez cette définition, les silices qu'on utilise, elles sont nanométriques, en fait. Hein. Elles sont formées à la base de petites particules qui sont plus ou moins agrégées, agglomérées, mais elles tombent sous le coup. Et donc, du coup, dans l'alimentaire, on est obligé de reconnaître qu'il y a de très nombreuses applications. Hein. Alors, dans l'alimentaire, il y a surtout actuellement, je pense, des emballages. On réfléchit à des emballages intelligents, des choses qui laisseraient très peu passer les gaz, etc., ou qu'on aurait des témoins de péremption des produits, hein, des choses comme ça. Il y a beaucoup, alors je pense qu'on reviendra sur les aspects réglementaires peut-être aussi là-dessus, hein, il y a beaucoup de batailles à l'échelon réglementaire européen pour savoir si on rend obligatoire l'étiquetage des additifs alimentaires, notamment, hein. Basé sur les nanos. Alors là, il y a une vraie bataille entre le Parlement européen, la Commission. C'est en train beaucoup de bouger, hein, sur ces aspects-là. Mais il y a déjà des applications alimentaires et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Même si elles ne sont pas encore commercialisées, il y a beaucoup de recherches depuis longtemps sur le domaine et souvent avec beaucoup de secrets. Hein, ça reste le principal problème. C'est que sur des données intimes comme celle-là, tout ce qui touche au corps, que ce soit les cosmétiques, l'alimentation, les industries communiquent très peu, hein, parce qu'évidemment, ça fait très peur, ces sujets-là.
Voilà. Merci.
Bonjour. J'aimerais savoir, enfin, c'est une idée comme ça, depuis combien de temps on fait des nanotechnologies sans s'en rendre compte, même dans l'artisanat et dans les sciences plus modernes du 19e et du 20e.
Oui, ouais, tout à fait. Bah, comme dit Yata, depuis la nuit des temps. Hein. Effectivement, hein, on en fait depuis très longtemps. On donne des exemples célèbres des particules d'or des vases antiques, hein, des épées de l'Antiquité, dont on réalise en fait, hein, que les effets de tranchant étaient déjà dus à la structure moléculaire en fait, des aciers utilisés. Hein. Donc on en fait depuis très longtemps. Il y a tout un tas de propriétés, ben, ne fût-ce que des propriétés alimentaires, hein. Même le lait finalement a sa composante et sa texture du fait de propriétés qui s'expliquent à l'échelle nanométrique, en fait, hein. Et la nature effectivement elle-même fait des nanotechnologies depuis la nuit des temps, hein. Mais ça nous en dit long sur la capacité des nanotechnologies à être efficaces aussi, hein, à être, donc c'est pour ça qu'il y a tout ce courant du biomimétisme aussi qui vise peut-être à mimer finalement ce que faisait la nature sans le savoir, et donc c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas se permettre de refuser en bloc les nanotechnologies. C'est juste absurde, en fait, hein. Ça voudrait dire renoncer à des choses qui nous composent depuis très longtemps et sur lesquelles on vit quelque part depuis très longtemps. Et c'est surtout la nécessité de faire la part des choses au regard de ce qui peut être vraiment nocif et de ce qui l'est moins, hein, même si c'est dur à faire.
J'ai juste rajouté, ça veut dire que ça relativise un peu les dangers,
oui,
si on les côtoie depuis longtemps.
Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr.
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi est-ce que, selon vous, il faut différencier les deux visions, c'est-à-dire la vision de la recherche et la vision publique, du public qui est en quelque sorte ignorant par rapport à l'existence des nanotechnologies.
Ah ben j'aimerais qu'on n'ait pas à les différencier. Hein. Ça, c'est évident qu'on voudrait que les connaissances diffusent, qu'elles soient portées par tous, que tout le monde soit conscient des choix technologiques et que tout le monde puisse participer, hein, aux choix technologiques. C'est tout le problème de la démocratie technique, de la mise en décision des choix technologiques. Là, de fait, enfin, ce qu'on dit souvent, c'est que la société se trouve prise en otage, en quelque sorte, par le développement de produits. Hein. Dans les années 90, les industriels, commençant à comprendre les propriétés fascinantes des nanotechnologies, ont développé tout un tas d'applications qu'ils ont mises sur le marché sans connaître vraiment les problèmes qui pouvaient y être associés. Et de ce point de vue-là, la société elle-même a été prise comme cobaye de ces expérimentations sans y être associée et sans en être informée du tout. Hein. Donc je pense que au regard de l'ignorance qu'on est obligé de constater de tous ces enjeux, la première nécessité, c'est d'informer. Hein. Et évidemment, autant que possible, d'associer
d'associer aux décisions. C'est normalement tout l'objet d'un débat public. C'est aussi pour ça, à mon sens, il est dommage de perturber un débat public, parce que c'est quand même le seul lieu où, malgré tout, on vous demandez l'avis, normalement, d'une société civile que vous essayez d'éduquer. Voilà, donc c'est pas du tout je pense pas du tout qu'il faille volontairement distinguer, mais on est obligé de le faire dans la constatation.
Et est-ce que vous pensez qu'il y aura des conséquences sur le développement de la société, enfin notamment au niveau des entreprises qui fabriquent tous ces objets, ou bien
ce que je pense, ce qui est assez probable quand même, c'est que finisse par se développer une opposition sociale radicale aux nanotechnologies, un petit peu comparable à celle qu'on observe pour les OGM, par exemple, qui, dans les faits, va, pour un certain temps, brider le développement des nanotechnologies. Et ça, on l'observe déjà, dans le fait que les budgets consacrés à la recherche sur les nanotechnologies sont, alors à quelques exceptions près, sont quand même globalement en diminution. Il y a des régions, par exemple, qui ne financent plus du tout les recherches en nano, parce que nano est devenu synonyme de dangereux. Et ça, je pense que ça a tout autant d'effets pervers que de bons effets. C'est-à-dire, peut-être dans un premier temps, ça va permettre de limiter la pluralité des produits qui pourraient exister, qui pourraient être dangereux, mais en même temps, on va prendre énormément de retard sur des connaissances effectives qu'on aurait pu développer. Donc le risque de la société irrationnelle qui réfléchit quand même, au regard du peu qu'elle entend, etc., je crois qu'il est hélas encore présent. Il faut lutter contre ça par l'information et la transparence le plus possible.
D'où l'intérêt de faire des journées comme celle-ci.
Tout à fait.
Mais quand on organisait nos journées d'études, on avait à peu près une trentaine d'intervenants. On était le centre de... En France, on était les seuls à avoir fait venir autant de personnes. On n'avait pas énormément de public. Donc, il est vrai aussi qu'il y a un problème de définition. C'est quoi les nanos ? C'est ce que tu as dit. Et le fait que le public ne réagisse pas ou réagisse plus tard, c'est aussi dû, je crois, par rapport à une vision historique que tu connais, c'est que le progrès, l'application du progrès peut être immédiate, et puis c'est toujours après qu'on réagit. C'est pas sur le moment. Et je pense que pour ce qui concerne les nanos, c'est une vision un peu pessimiste, mais c'est peut-être trop tard, quoi. Étant donné que les applications sont déjà là, et c'est ça qui est assez étonnant. Et je pense que c'est intéressant aussi de l'étudier d'un point de vue historique par rapport à la notion de progrès. Comme tu le dis, je pense que les gens, si tu fais un micro-trottoir, en effet, même les statistiques disent que les gens sont confiants en le progrès, dans le sens où le progrès, c'est aussi les maladies éradiquées, etc., la faim, tout ça. Et quand il y a un réel problème, c'est quand il y a une catastrophe, on le voit bien tous les jours, qu'il y a une réaction. Le changement climatique, c'est un exemple terrible pour ça, parce que... Mais moi, je suis assez sceptique par rapport aux nanotechnologies. Aussi, on en parlera, c'est par rapport à la transparence, par rapport à l'étiquetage. Déjà qu'on ne lit pas les étiquettes dans les supermarchés, elle en parlera, c'est Stéphanie Lacour, et qu'il faudrait peut-être une loupe pour arriver à lire les étiquettes. Qui va voir s'il y a des nanoparticules dans des produits de beauté ou autre ? Personne ne le fait. Voilà. Mais comme les applications sont quand même très communes, pourquoi pas trouver un code comme on va le faire maintenant avec les produits rouges, etc., qui sont dangereux pour lutter contre l'obésité. Pourquoi pas trouver un code justement pour que le public soit quand même informé, savoir là il peut y avoir danger, etc. L'information, elle est là de toute façon, mais il y a tellement d'informations qu'il faut aussi pouvoir la faire passer au niveau du public, parce que c'est complexe.
Après, on en reparlera, mais en même temps, imposer le choix aux citoyens, aux consommateurs de base par rapport à des produits dont on ignore globalement la dangerosité, lui dire ça, c'est plus ou moins dangereux, mais on ne sait pas trop. Pas sûr que ce soit non plus la solution idéale. Quoi. Mais,
c'est le revers du principe de précaution.
C'est le revers du principe de précaution, tout à fait,
ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Là-bas.
Je n'ai pas vu, pardon.
Oui, une petite question, parce que au travers des exemples que vous avez donnés, notamment le lien on retrouve avec les nanos, vous parlez du nano-argent et des résistances microbiennes, etc., on a l'impression qu'on fait les mêmes, je ne vais pas dire erreurs, mais on retrouve les mêmes problématiques qu'avec des pesticides, des médicaments, des antibiotiques, et j'ai l'impression qu'on réagit de la même manière. Et est-ce que c'est pas ça le problème, et ce qui pose aujourd'hui une grande question aux gens, c'est qu'on les gens ont quand même ce recul et que finalement on s'aperçoit que quoi qu'il arrive, on répète toujours les mêmes processus.
Alors vous avez deux visions, des visions très pessimistes qui diraient qu'on fait toujours pareil, effectivement, et je pense qu'elle est en partie justifiée. Il y a un rapport qui est, alors je crois que c'est, qui a fait paraître ça, peut-être les Amis de la Terre, qui s'appelle, signaux précoces, réponses tardives. Et dans lequel il vous montre que exactement que pour tout un tas de domaines, les PCB, le mercure, les OGM, le plomb, l'amiante, enfin tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, les déchets nucléaires, la nanotechnologie, etc. On a toujours fait que ça. Hein, c'est-à-dire, des gens ont donné des alertes, etc. Mais le temps qu'on se bouge, le temps qu'on trouve des moyens de parade, etc., il était déjà trop tard et on se trouvait à réparer plutôt qu'à prévenir, hein, effectivement. Alors on peut être très pessimiste en disant que pour les nanos, ça va être pareil. On peut être un tout petit peu plus optimiste en remarquant que c'est la première fois qu'on parle d'analyse de cycle de vie, qu'on envisage finalement assez en amont tout un tas de conséquences négatives que pourraient avoir des produits. Hein. Pour tout un tas de produits industriels qu'on a mis sur le marché depuis 15 ans, on ne se posait pas toutes ces questions. Hein. Les nanotechnologies, maintenant, on essaie de se les poser. Hein. On essaie de se demander ce qu'elles deviennent une fois mises dans l'environnement, comment elles affectent les poissons, comment elles affectent la flore, etc. Donc, malgré tout, peut-être cette culture de la précaution, elle commence à quand même diffuser un petit peu et on essaie de la mettre un petit peu en œuvre, même si c'est très difficile. Hein. Voilà.
La dernière.
Enfin, j'aimerais demander quelle est selon vous une solution à adopter, parce que au finish, moi j'ai l'impression que même informer va devenir un problème, dans la mesure où informer la population des risques de nanotubes peut freiner justement, enfin peut avoir des conséquences économiques au niveau des industries. Et quelle est selon vous donc la solution à adopter en ce moment où on se rend compte que tout ce qui nous entoure est constitué de nanotubes?
Bon, tout n'est quand même pas constitué de nanotubes. Il faut évidemment développer beaucoup, beaucoup les recherches sur les risques. Hein. Actuellement, c'est entre 3 et 8% des budgets globaux affectés aux nanotechnologies qui concernent les études de risque. Hein. Donc il faut développer ces études-là, il faut concerner les industriels, hein. Mais vous avez tout à fait raison de le dire, que le problème n'est pas simple. Hein. Les industries, les PME par exemple, aujourd'hui, sont dans le même temps incités à faire attention aux nanomatériaux parce que c'est susceptible d'être dangereux, et on a très peu de données, et dans le même temps incités à se mettre à développer les nanomatériaux parce qu'il faut rester compétitif dans un contexte international. Hein. Et une même PME peut être approchée par deux programmes différents le même jour qui tiennent des discours tout à fait contradictoires à ce sujet. Hein. Donc on est dans cette situation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire au regard de tout ça? On ne peut pas se laisser mourir économiquement, c'est évident. Et en même temps, on sait que tout cela finira par avoir un coût social très, très important. Il faut développer les études de risque, il faut inciter les industriels à les prendre en compte et à développer des produits sûrs le plus possible. Il faut arriver à s'entendre au niveau mondial à ce sujet aussi, parce qu'on est sur des cultures très, très différentes entre ce qui se fait en Asie, ce qui se fait aux États-Unis et ce qui se fait en Europe. Je ne peux pas vous répondre ce qu'il faut faire, d'autres en parleront. En tout cas, c'est une question complexe. Hein. Il faut déjà prendre conscience de la complexité de la question. Voilà, merci à tous.